Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le réchauffement climatique que l'on vit aujourd'hui est inédit. Sécheresse, canicule, chaleur, inondation, des mots que la planète entière prononce presque tous les jours. Une catastrophe environnementale profonde, rapide, dans laquelle nous avons une responsabilité sans équivoque, souligne le GIEC. Notre manière de vivre menace nos écosystèmes, nos conditions de vie sur Terre. Alors que pouvons-nous attendre de ces bouleversements que nous causons? Le climat ne s'est jamais autant réchauffé qu'aujourd'hui. L'histoire n'a donc pas toutes les réponses, mais elle nous apprend que de tout temps, les chocs climatiques ont laissé des séquelles, des plaies. Ils ont participé à la chute de certaines civilisations. Révolutions, révoltes, crises politiques, militaires, sociales, à Rome sous Marc Aurèle, dans les fabuleuses cités mayas, au cœur de la Chine dirigée par les Ming, le climat a joué un rôle que les spécialistes aujourd'hui disent ne plus pouvoir ignorer. Trois empires, trois épisodes, pour comprendre comment, à de multiples points du globe, le climat a pu un jour bouleverser le cours de l'histoire. Nous sommes au IIIe siècle de notre ère. Personne ne le sait évidemment à l'époque, mais l'Empire romain est en train de vivre les dernières années de son apogée. Conquête, expansion, économie, population, démographie, Rome domine, Rome gagne, Rome conquiert, Rome exulte. L'Empire a la main mise sur l'Europe et la Méditerranée. Le IIIe siècle, théâtre de la suprématie romaine, mais aussi antichambre de son déclin. La chute de Rome n'aura lieu qu'au Ve siècle, mais déjà 200 ans auparavant, l'immense empire, qui regroupe le quart de la population mondiale, joue son avenir et perd plusieurs batailles. Pourquoi s'est-il effondré? Invasion, attaques barbares, défaites militaires, pandémie, faiblesse des empereurs? Oui, mais il y a aussi autre chose, un aspect qui n'a pas toujours été au cœur des explications historiques. Un élément extrêmement important qui ressurgit aujourd'hui du tréfonds du passé, le changement climatique. Je suis Pauline Jacquot, vous écoutez Les Grandes Histoires de l'Écho. Et nous allons découvrir ensemble comment le climat a changé le cours de l'histoire.
Hold on.
Épisode 1, Rome, le climat change, un empire se fissure. En 165 après Jésus-Christ. À cette époque, une guerre oppose depuis des années deux géants, l'Empire romain et son voisin, l'Empire parthe. En jeu, un territoire, l'Arménie. Pour vaincre son adversaire, les Romains poussent l'offensive jusqu'au cœur de la Mésopotamie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. L'Empire est à ce moment-là à son apogée. 70 millions d'habitants, une prospérité indéniable, commerce, ressources, taille des villes, tout concorde à dire que l'Empire romain vivait à cette époque les années les plus fastueuses de son histoire. Dans les grandes villes de la Mésopotamie, où les Romains ont réussi à pénétrer, les troupes s'emparent des richesses et des trésors qu'ils trouvent. Ils ramènent ensuite sans encombre leur immense butin à Rome.
Dans une des grandes capitales qui pillent en Mésopotamie, c'est le site du Tigre, prennent une statue dans un processus de pillage habituel. On prend les statues des dieux des autres et tout ce qui peut aussi représenter du butin.
Benoît Rossignol est professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Avignon.
Et le butin ensuite est montré en triomphe à Rome, au retour donc de l'empereur victorieux. Et cette statue d'Apollon, elle avait sans doute été ciblée parce que c'est une statue de très très grande qualité, très célèbre, liée à l'histoire de cette région de Mésopotamie. Et ce butin, qui devait être quelque chose de très prestigieux, a sans doute été interprété ensuite de manière très négative parce qu'une épidémie se déclenche quelques mois après la prise de cette statue, au moment du retour triomphal de l'empereur. Cette épidémie est interprétée par ce que les Romains appellent une pestilence, on pourrait dire une peste, même si ce n'est pas la peste. Et Apollon est justement le dieu qui envoie les pestilences, les épidémies fortement mortelles. Et donc, la statue peut être justement un peu le symbole de ce retournement de situation qu'on vit dans les années 160-170, où là où les choses semblaient aller au mieux, on va affronter des difficultés nouvelles.
Une épidémie, première difficulté d'un empire romain gouverné à ce moment-là par deux empereurs, deux hommes qui partagent le pouvoir, Marc Aurèle à Rome et Lucius Verus, parti combattre en Orient. L'empire, dans lequel on circule à pied, à cheval, est immense, il faut des semaines pour le traverser. De l'Écosse actuelle à l'Atlas, au sud du Maroc, de la Galice jusqu'à l'Arménie, la Syrie. Dans un territoire si vaste, les régions sont évidemment différentes, une mosaïque de peuples, de cultures, même si de plus en plus les populations vivent à la romaine. Elles parlent latin ou grec, la géographie, les températures, le climat varient d'une région à une autre. C'est le pouvoir politique romain qui rassemble tous ses habitants. Tous payent l'impôt en échange de la protection de l'Empire. Un empire dans lequel va s'opérer un autre bouleversement. Après la violence de la pandémie de pestilence, nous sommes alors en 250 après Jésus-Christ.
Un peu partout dans l'Empire romain, les sources relatent des événements inhabituels.
Vincent Collen est journaliste aux Échos.
Par exemple, en Égypte, les fonctionnaires impériaux ordonnent d'enregistrer tous les stocks privés de céréales dans un délai de 24 heures. C'est un document de l'époque qui nous relate cet événement. Donc l'État procède à des achats obligatoires de récoltes à des prix incroyablement élevés, le double de la normale. Ça montre que ça va très mal en Égypte à cette époque. Les relevés qui sont conservés sur des papyrus montrent que les crues du Nil sont moins abondantes et surtout irrégulières.
Depuis plusieurs décennies, les crues du Nil sont irrégulières, elles sont moins abondantes. C'est la pire crise environnementale au cours des 7 siècles où l'Égypte a été romaine.
Au même moment, en Palestine, on a un témoignage écrit également, un rabbin qui est témoin d'une terrible sécheresse qui frappera la région pendant plusieurs années. Et on a d'autres témoignages qui font état de sécheresse en Afrique du Nord, par exemple, dans ce qui correspond aujourd'hui à la Tunisie.
Les contemporains n'en ont aucune idée, mais ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux porte un nom. Un nom que l'on connaît très bien aujourd'hui, le changement climatique.
Il y a une tendance générale du 1er au 4e siècle vers un climat qui serait un peu plus froid et un peu plus sec, mais qui s'exprime avec des rythmes différents, avec justement une période qui semble plus favorable, c'est la période que souvent on appelle optimum romain, qui concerne à peu près les 2 premiers siècles de notre ère, où semble-t-il on a des températures un peu plus hautes, parfois jusqu'à 1 degré au-dessus de la moyenne, sans pour autant avoir une aridité forte en Méditerranée. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est bénéfique pour l'Empire, parce que du point de vue de la productivité agricole, c'était sans doute favorable. Et cette tendance, qui est plutôt une exception, se termine justement dans les années 160, si l'on veut, alors c'est discuter la date exacte, hein, parce que c'est toujours très difficile d'assigner une date à quelque chose qui, en fait, est une dégradation progressive, un changement qui s'étale parfois sur des décennies. Et ce changement-là, il affecte effectivement plusieurs régions. Mais aujourd'hui, on essaye d'avoir une approche qui se régionalise. Mais cette tendance, à la fin de cette période un peu particulière, elle est effectivement assez générale. On va vers une dégradation avec des températures un peu plus fraîches et des précipitations sans doute moins favorables pour beaucoup de régions.
La fin de l'optimum romain, c'est donc ça que les populations sont en train de vivre, la mort progressive de ces conditions climatiques favorables qui ont accompagné l'essor de l'Empire romain pendant 3 siècles. Un optimum qui concernerait en fait une grande partie du globe, au-delà de l'Europe, au-delà du bassin méditerranéen. Certains spécialistes, Kyle Harper par exemple, professeur d'histoire ancienne à l'université de l'Oklahoma, soulignent un étrange parallèle avec l'essor de la dynastie Han en Chine à la même époque. Mais pourquoi ce climat avantageux qui a tant bénéficié entre autres à l'Empire romain a-t-il disparu ?
Alors, les contemporains, eux, n'en étaient pas du tout conscients. Nous, on commence à le comprendre aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. D'abord, les cycles du soleil, qui varient selon les époques et qui ont évolué dans un sens moins favorable à ce moment-là. Ensuite, il y a eu des perturbations du climat qui sont liées aux océans, du type de celle de El Niño, qu'on connaît encore aujourd'hui, tous des cycles de plusieurs années qui influencent le climat sur l'ensemble de la planète. Et puis enfin, les éruptions de volcans. Elles étaient très peu fréquentes pendant la période favorable dont on vient de parler, malgré celle de Pompéi que tout le monde connaît. Et donc, il y a eu la fin de cette période favorable avec des éruptions de volcans plus fréquentes et plus violentes qui ont envoyé des aérosols à haute altitude dans l'atmosphère, ce qui a fait écran au soleil et réduit les températures.
Les récoltes sont bien moins bonnes, alors que la population dans l'Empire est à la fin du IIe siècle à son maximum. Les disettes, les famines se multiplient, les fleuves gèlent, plus souvent, plus longtemps. La navigation fluviale, un moyen de communication essentiel, est alors totalement perturbée. Il y a moins de céréales, moins de revenus et donc moins d'impôts dans une société roumaine où l'agriculture est évidemment primordiale. L'Empire est sous tension, tension climatique, financière, politique et militaire. Dans les années 250, les Perses ont remplacé les Parthes, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus forts. Rome multiplie les défaites, d'autres menaces sont nées sur d'autres fronts. L'Empire a de plus en plus de mal à faire face, des cercles vicieux se mettent en place. Si l'Empire ne gagne plus ses batailles, s'il ne garantit plus la prospérité aux habitants, la légitimité de l'empereur sera alors plus fragile. Les coups d'État peuvent se multiplier et tout cela complique encore un peu plus la situation politique et militaire.
Si on est au milieu du IIIe siècle, on voit les règnes d'empereurs être très courts parfois et en général, l'empereur ne meurt pas dans son lit. En général, il va mourir assassiné par ses soldats qui sont mécontents ou par une autre coterie ou par un usurpateur. Et ça renforce évidemment l'instabilité, mais ça renforce aussi les demandes. Ces empereurs ont besoin de victoires rapides, ont besoin de ressources. Donc l'Empire se fait plus exigeant. Ça peut entraîner aussi des phénomènes qui ne sont pas forcément très favorables à la réussite économique, comme des dévaluations de la monnaie.
De la monnaie, de l'argent, il en fallait évidemment pour payer les troupes qui se battent sur tous ces fronts, contre les Perses, contre les barbares sur le Danube. À cause de dépenses qui ne font qu'augmenter, l'Empire décide de baisser la quantité d'argent dans ses pièces de monnaie et d'augmenter la quantité de bronze. Les signes du déclin de Rome se multiplient.
Cette situation historique, elle n'a pas un déterminant simple. Ce n'est pas un déterminisme qui serait très simple. Il y a le climat d'abord, et puis il intervient sur l'économie, sur la société. C'est un facteur parmi d'autres. On pourrait parler de composition des éléments, et la nature joue son rôle. Le climat joue son rôle, et diminue des marges de manœuvre, entraîne aussi des crises dans des moments décisifs. Et donc, il y a des moments où, effectivement, ça détermine des conséquences. Parce que avoir une disette, ce n'est pas le moment, parce qu'on a besoin de ressources pour nourrir l'armée. On peut penser, éventuellement, dans les années 260, on voit bien qu'il y a cette crise militaire et politique qui a son plus haut. Et si on n'a pas la marge de manœuvre liée au blé de l'Égypte, parce que le Nil ne fait plus des crues aussi favorables qu'avant, ça complique tout et ça peut aggraver. Aujourd'hui, on a aussi une perception plus nette de l'expression régionale de ce changement climatique, de cette transition. On voit qu'il y a des régions qui ont pu être avantagées par rapport à d'autres. Par exemple, vers le 4e, 5e siècle, il y a des basculements. Il y a des régions qui étaient sèches qui deviennent humides et des régions humides qui deviennent sèches. Et donc, le poids relatif des régions dans l'Empire change. Et ça bouscule aussi les équilibres politiques entre l'Orient et l'Occident, par exemple.
On sait aujourd'hui, par exemple, que tout le territoire qui va de l'Anatolie au Levant du Nord, de l'actuelle Turquie et de l'Est de la Syrie jusqu'au Liban, gagne en humidité entre les années 250 et 500 après Jésus-Christ. Les récoltes y sont donc meilleures. En revanche, à cette même période, la péninsule ibérique va connaître un climat plus sec, des sécheresses qui peuvent être problématiques, un curseur climatique et agraire qui va par exemple faire que certaines élites vont pouvoir prospérer et avoir un poids politique plus grand auprès de l'empereur. Mais comment sait-on tout cela aujourd'hui? Comment les experts peuvent se prononcer sur des changements climatiques qui ont eu lieu il y a des milliers d'années? La réponse se trouve en partie dans ce que les spécialistes appellent les cernes des arbres.
Si vous avez vu une souche d'arbre, vous avez bien vu qu'il y a des cercles concentriques et que chaque cercle correspond à une année de croissance. Chaque année, l'arbre fait son écorce. Et les années favorables, il va faire un peu plus d'écorce que les années défavorables. Donc sur un arbre, ça ne nous renseigne pas grand-chose. C'est-à-dire, ça nous renseigne sur la vie de cet arbre, qui dépend de plein de facteurs différents. S'il y a des arbres voisins qui ont fait de l'ombre, ça l'a gêné. Mais si on arrive à avoir des centaines de cernes d'arbres différents, on va pouvoir éliminer tous ces petits facteurs individuels pour retrouver, par des analyses mathématiques, c'est l'extraction de signal, la tendance climatique. Alors au départ, c'était juste en mesurant les cernes. Aujourd'hui, on a même des analyses chimiques de ces cernes qui permettent d'être encore plus précis. Et là, on peut vraiment avoir des analyses régionales. C'est-à-dire que là, on peut reconstituer des variations de température et de précipitation à l'échelle de régions si on a suffisamment de ces troncs d'arbres passés. Et pour l'Empire romain, on a très bonnes mesures. Alors, c'est inégal dans l'Empire, mais c'est très, très précis pour toute la partie nord de l'Empire. La Gaule, les Alpes, les Balkans, on commence à avoir de très, très bonnes séries. Et donc, on peut vous dire, année après année, la météorologie du bassin parisien à l'époque romaine.
Le bois des arbres, des anciens moulins, du bois fossilisé, des vestiges archéologiques, une formidable machine à remonter le temps. Il y a aussi l'étude des carottes glaciaires au Groenland, l'analyse des stalactites dans les grottes, des sédiments dans les lacs, des pollens, du carbone 14. Tous ces progrès de la science ont permis d'avancer à pas de géant vers plus de précision dans la variation des températures, des aléas climatiques qui peuvent aujourd'hui être étudiés, analysés et comparés.
Le changement climatique actuel, il est différent. Les changements climatiques qu'on observe dans le passé lointain, comme l'Empire romain, ils naissent à la fois des fluctuations générales du climat. Le climat, c'est quelque chose qui fonctionne avec des cycles. Donc, il y a toujours des cycles. La plupart des gens aujourd'hui ont entendu au moins parler d'El Niño. Vous savez, c'est ce cycle dans l'océan Pacifique qui fait que régulièrement, il y a des moments de plus de pluie, plus de température qui reviennent. Donc, on a ces cycles climatiques. Et puis, on a ce qu'on appelle des forçages. Des événements qui font que, à ces cycles climatiques, s'ajoutent des perturbations. Alors, il y a deux forçages naturels importants. Le soleil, parce que le soleil, il n'est pas toujours aussi fort. Donc, par moment, il envoie plus d'énergie, par moment, il en envoie moins. Et puis, les volcans, parce que les gaz éjectés par les volcans ont un effet, on va le dire, bloquant un petit peu, justement, sur la chaleur solaire. Donc, il y a les cycles et le forçage. Et c'est ça qui crée les changements climatiques dans le passé. Le changement actuel, il fonctionne sur une logique différente parce qu'on change la composition même de l'atmosphère. Donc ça, c'est un forçage complètement différent parce que c'est la nature même du système climatique qui change parce qu'on change la composition de l'atmosphère. Un gaz qui a beaucoup d'importance sur la répartition de la température, le CO2, eh bien, on augmente sa proportion et donc on change les équations de base du système. Ce n'est pas seulement à la marge par des forçages ou par des cycles. C'est la composante même du climat qui change. Et ça, c'est quelque chose sur une échelle évidemment bien différente de ce qu'on avait dans le passé.
Dans la dynamique de déclin de l'Empire romain à partir du IIIe siècle, le climat est donc un facteur qui a joué son rôle dans la perte de résilience de l'Empire et dans l'aggravation de certains événements politiques et militaires. Comme en témoigne un événement, une migration en plein cœur de l'Eurasie, là où régnaient les peuples nomades des steppes. Ce sont les Huns. Les Huns qui vont quitter leur territoire, l'Altaï, le long de la Volga. Ils vont rejoindre la Crimée et la mer Noire pour aller attaquer Rome.
Il peut y avoir des situations un peu particulières. Par exemple, il y a un papier récent qui montre que l'agressivité des Huns et d'Attila pourrait être liée justement à une sécheresse dans les années 430 qui toucherait les zones de pacage des Huns. Et ils vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Donc, il y a un feuilletage de causes qui, à un moment donné, ont causé un effondrement ou, c'est ce que dit Claire Sautinel, une déconstruction de l'Empire romain d'Occident parce que les élites locales n'ont plus voulu soutenir cet empire, ont eu plus d'avantages à suivre les chefs germaniques militaires locaux.
Des chefs germaniques, de très bons guerriers qui arrivent à faire jeu égal avec Rome, l'élite romaine est dépassée. Nous sommes à un moment très délicat pour l'Empire. L'attaque des Huns, évidemment, mais Attila n'est pas le seul. D'autres agresseurs, comme les Vandales, les Suèves, menacent les frontières de l'Empire.
On est dans des sociétés qui ont très peu de marge de manœuvre aussi par rapport aux conditions naturelles dans lesquelles elles vivent. Même si y a du stockage possible, même s'il y a du commerce possible, on n'a pas les moyens d'une société industrielle. C'est très dur d'acheminer de très grandes quantités de blé, par exemple. C'est difficile de stocker de grandes quantités sur de longues années. Et donc, une fois que les modes de résilience, les silos, les entrepôts ou le commerce maritime sont insuffisants, on rentre très vite dans des crises qui peuvent être résolues par de la violence politique ou militaire. Donc, ça peut être de l'émeute pour demander à ce qu'on ouvre de nouveaux entrepôts. Ça peut être tout simplement pour un peuple de la steppe qui a besoin de packages comme les Huns, d'aller chercher des territoires ou des ressources un peu plus loin.
4 septembre 476 après Jésus-Christ. Après des siècles de conquêtes, le jeune Romulus Augustule, âgé de 14 ans, abdique. L'Empire romain d'Occident chute. Fin de l'histoire ? Pas vraiment, car des années plus tard, un empereur va tenter de regagner le territoire perdu. Mais là encore, les aléas du climat vont se mettre en travers de ses pas. Au VIe siècle, dans les années 530, l'empereur d'Orient, Justinien, arrive avec une capacité de puissance remarquable et décide alors de repartir à la conquête de l'Occident pour reconstituer l'unité. Il reprend toute l'Afrique du Nord, une partie très prospère de l'ancien empire, puis il se lance à la reconquête de l'Europe en commençant par l'Italie. En 536, les troupes marchent vers Rome, mais elles seront vraisemblablement stoppées, bloquées, par une catastrophe climatique.
Et là, on a un moment de crise climatique très fort. C'est-à-dire qu'on a deux éruptions volcaniques en 536 et en 540 qui entraînent un refroidissement très fort. Et on a justement aussi un de ces basculements de régions méditerranéennes assez marqués. Et donc le VIe siècle, du point de vue climatique, il se trouve marqué par ce refroidissement considérable. On perd peut-être 1 degré de température. Et donc, la reconquête, cette idée de refaire un empire qui serait à la fois d'Orient et d'Occident, a, semble-t-il, trouvé une barrière climatique et puis aussi microbiologique, parce que c'est le moment où la peste revient. C'est la première grande pandémie de peste que l'on connaît avec certitude. Et toute la question qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'il y a un lien entre cette pandémie de peste des années 540 et ce changement climatique des années 540 aussi ? Et donc, l'histoire climatique de l'Empire romain, elle va jusqu'un peu après la chute de l'Empire romain d'Occident, parce qu'on a ce moment de Justinien très particulier dans les années 540, où cette tentative de reconquête semble se heurter à des facteurs d'ordre climatique et épidémique.
Les scientifiques qui ont étudié le phénomène racontent que la quantité de dioxyde de soufre libérée par les éruptions a été telle que les températures ont chuté d'environ 2 degrés les années qui ont suivi. Ce fut l'époque la plus froide de ces 2000 dernières années. L'Empire d'Orient survivra encore presque 1000 ans. Il s'éteindra en 1453 avec la chute de Byzance, devenue Constantinople. En revanche, 476 après Jésus-Christ est bien l'année qui marque la fin de l'Empire romain d'Occident, dont l'histoire ne peut plus être racontée aujourd'hui sans celle de son cadre naturel et climatique. Merci à Benoît Rossignol, professeur d'histoire ancienne à l'Université d'Avignon. Merci à Vincent Collen, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter Les Grandes Histoires de l'Écho, notre premier épisode de la série Quand le climat change l'histoire, intitulé Rome, le climat change, un empire se fissure, réalisé par Willigan. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nous partirons découvrir comment les Mayas ont été frappés par le climat. Pour écouter nos épisodes déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être, abonnez-vous sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Google Podcasts. À bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.